Face aux béatitudes, nous pouvons être tentés de cocher les cases, un peu de le prendre comme un test, pas psychologique, mais un test spirituel ou religieux pour voir un peu quelle note générale on aurait. Essayons, je vais vous donner l'exemple. Pauvre de cœur, heureux les pauvres, pauvre de cœur, au sens de cœur ouvert, vous savez, un cœur assez disponible, pas trop encombré, capable d'accueillir le Seigneur, capable aussi de s'intéresser aux autres. Là, moi, je coche, oui, un point. Heureux, pas ceux qui pleurent, les affligés, c'est-à-dire ceux qui sont prompts à s'émouvoir, ceux qui sont capables de compassion. Ah oui, s'il y a la compassion, là, oui. Deux points. Doux. Ah, là, ceux qui me connaissent le savent, j'ai encore des progrès à faire. Non, là, pas de point. Affamés de justice. Pareil, j'aimerais bien, mais honnêtement, surtout dans notre société de privilégiés, affamés, je ne peux pas dire, soucieux, oui, mais c'est, non, ce n'est pas suffisant. Zéro point. Miséricordieux. Pas seulement indulgent, mais tolérant, pas rancunier. Oui, là, je peux. Oui, d'accord, là. Hop, trois points. Pur, en pensée, en imagination. Ouille. Artisan de paix. Ouille, ouille, ouille. Persécuté pour la justice, insulté à cause de Jésus. Aïe. Je ne crois pas que j'aurai la moyenne. Si c'était effectivement un examen de sainteté, l'examen d'entrée dans le royaume des cieux, là, alors, je rencontre assez souvent des personnes plus optimistes que moi, qui me disent, non, une seule case, non, c'est bon, une seule croix suffit. Eh bien non, non, ces béatitudes forment un tout, un ensemble, qu'on peut même qualifier d'un ensemble organique. Organique, ça veut dire qu'on ne peut pas enlever un morceau sans dénaturer tout le reste. Vous savez, comme les 10 commandements, comme en régime chrétien, les 7 sacrements. Vous pourriez essayer d'ailleurs les béatitudes. C'est assez tentant de se dire, oh les persécutions, on va mettre ça de côté, on va garder juste le reste, comme ça tout le monde peut se reconnaître. Non, ça ne marche pas. Parmi les points communs de tous les saints et les saintes que nous honorons ce jour, il y a fondamentalement la foi en la Trinité Sainte, la communion d'amour, Dieu d'amour. Cet amour pour nous jusqu'au don de sa vie en Jésus-Christ. Il y a une vie de prière soutenue par les sacrements de l'Église, comme nous ce matin. Tous les saints et les saintes de Dieu ont puisé dans ce trésor de grâce avant de l'alimenter à leur tour, par une vie de charité qui a été nourrie par la prière et par la pratique des sacrements. On ne peut pas être saint sans être catholique, fervent, et pratiquant non seulement sa foi, mais pratiquant la charité. Non, on ne peut pas. On ne peut pas être saint ou sainte sans avoir été fidèle et à l'amour de Dieu et à l'Église du Christ. Pour le dire autrement, on ne peut pas être saint, c'est-à-dire heureux. Il faut bien comprendre l'équivalence. La sainteté, c'est le bonheur. Être saint, c'est être heureux. Mais pas dans l'au-delà, dès aujourd'hui et pour toujours. Avec le Seigneur, on ne peut pas être saint ni heureux sans être cohérent. Cohérent avec soi-même, cohérent dans sa vie. Souvenez-vous de celui qu'on appelle dans l'Évangile le jeune homme riche. Cet homme qui était venu voir Jésus parce qu'il voulait entrer dans la vie éternelle, il voulait le bonheur éternel. Et il pouvait dire qu'il avait pratiqué tous les commandements de l'amour du prochain depuis son enfance. Et le texte dit que Jésus avait posé son regard sur lui et qu'il avait aimé. Un regard plein d'amour. Et puis il lui avait dit, il te manque une seule chose, la cohérence. La cohérence. Et nous, dans l'Église, nous ne sommes pas très cohérents. Depuis les parents chrétiens, qui ne souhaitent pas, dans leur immense majorité, que leur enfant se consacre pleinement à Dieu. Quel que soit l'état de vie, qu'ils ne les préparent pas vraiment, on peut interroger quand même un certain nombre de familles. Quelles sont les familles chrétiennes qui mettent l'éducation à la sainteté, le chemin de sainteté, comme axe de vie, comme axe prioritaire? Mais depuis les parents jusqu'aux pasteurs que nous sommes, nous prêtres, évêques, qui disons par exemple, pour donner un seul exemple, nous disons aux divorcés remariés qu'ils ne peuvent plus communier à la messe en raison de l'unité organique des sacrements, et dans le même temps, nous marions des baptisés qui ne sont pas confirmés, qui ne se vont jamais se confesser, ni vont pratiquement jamais à la messe. Non, nous ne sommes pas très cohérents. Pourtant, dans le credo, nous allons le dire dans quelques minutes, d'une seule voix, « Je crois à la communion des saints ». Et après l'offertoire, dans la prière eucharistique, « En votre nom, je demanderai au Seigneur, humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. » Voilà ce que nous célébrons dans la communion des saints, le rassemblement de tous les baptisés en un seul corps. Le Christ, que tout soit récapitulé en lui, la plénitude de Dieu, la plénitude de l'amour. Formez un seul corps. Et ne dites pas que ce n'est pas très attirant. C'est très exactement ce qui attire jeunes et moins jeunes dans l'union des époux. Ce qui fait la grandeur et la beauté de l'intimité sexuelle. Qu'est-ce que c'est un tout organique, comme le sont ces béatitudes, comme les 10 commandements, comme les 7 sacrements? 3 choses. D'abord, c'est un principe de communion, un principe au sens de l'origine, puisque la communion, elle vient de la Trinité Sainte, de l'amour du Père et du Fils dans l'Esprit. Ensuite, c'est un objectif de cohérence. Pour chacun de nous, un objectif, un chemin à prendre, où nous avons chaque jour à prendre conscience de nos contradictions, pas pour essayer de les éliminer, on ne peut pas, mais essayer quand même de les résorber, de les restreindre, de les travailler, parce que c'est la source de tous les conflits, c'est la source de toutes les divisions. Et puis, troisième chose, c'est une question de courage, car c'est le vrai point commun de tous les saints et saintes de Dieu. Ils ont fait preuve de courage dans leur vie, dans l'affirmation de leur foi, dans les épreuves qu'ils ont pu rencontrer, jusque dans les persécutions. Il est beau de fêter la Toussaint comme une fête de l'espérance, et elle l'est vraiment. Mais il est encore mieux de la fêter pour ce qu'elle est, la fête du courage, en demandant cette grâce au Seigneur pour nous. Seigneur, donne-nous chaque jour un peu plus de courage.